tentative de structuralisation du marxisme. Et d'abord, la première caractéristique qu'on peut faire, c'est que ce courant structuralo-marxiste est un courant scientiste. Bon, je ne vais pas simplement expliquer la structuralisation du marxisme, je vais la critiquer. Althusser, par exemple, fonde son projet théorique, d'abord, sur un plaidoyer pour la théorie scientifique. Son projet, c'est de débarrasser le marxisme de la pénétration de diverses idéologies qui le paralysent. Le marxisme, c'est de la science, il faut le dépouiller de toute l'idéologie qui s'y mêle. Avant ses premières grandes rectifications, il comptait sur la philosophie pour faire une théorie de la spécificité des différentes pratiques et à partir de là, de dégager une théorie de la pratique scientifique qui permette de distinguer de façon claire ce qui est de la science et ce qui est de l'idéologie. Ce faisant, il a critiqué radicalement les théories empiristes et pragmatiques de la connaissance. Et ceci à partir de certaines citations qu'il a extirpées de Marx, en particulier de l'introduction de 1857 à la contribution à la critique de l'économie politique, mais citation qu'il a en même temps sérieusement déformée. Il part notamment de cette citation de Marx qui dit que la méthode scientifique s'élève de l'abstrait au concret. Je vous signale que je n'ai pas fait une inversion, c'est vraiment ce que dit Marx. S'élever de l'abstrait au concret. D'autre part, il part de cette idée que le résultat d'une pratique scientifique, c'est pas n'importe quel concret, c'est, comme le dit Marx, la totalité concrète en tant que totalité de pensée, en tant que représentation mentale du concret, c'est-à-dire un fait du produit. Un fait, un produit de la conception. Ça veut dire que la pratique scientifique part non pas du réel, mais d'une représentation du réel. Représentation du réel qui constitue la matière première à partir duquel on va faire travailler des concepts, une théorie, qui sont quelque peu les moyens de production de la production théorique. C'est la généralité 2. Première généralité, c'est la représentation. Deuxième généralité, c'est le travail de la théorie conceptuelle sur cette généralité. Et le résultat, le produit fini, c'est une généralité 3, un résultat scientifique, qui est lui-même une abstraction, puisque Marx dit que c'est un concret de pensée, produit du concevoir. Une abstraction qui n'est pas n'importe quelle abstraction, qui permet de s'approprier le concret de façon spécifique, l'appropriation cognitive qui peut se différencier de l'appropriation artistique, par exemple. Alors, ça veut dire que les critères de la pratique scientifique sont purement internes à la pensée. Son idée, c'est qu'il faut développer la théorie marxiste pour sortir le mouvement ouvrier de sa crise. D'abord, Marx et Engels n'ont fait que poser les pierres d'angle de la théorie marxiste. Et surtout, Marx et Engels n'ont pas eux-mêmes toujours été très conscients de leur propre découverte. Ils ont souvent employé des concepts inadéquats pour formuler leurs immenses découvertes scientifiques, parce que les concepts nouveaux leur faisait défaut et qu'il fallait bien en utiliser quelques-uns anciens. Par exemple, et là je ne reviens pas parce que je l'ai déjà dit dans les premières séances, il ne faut pas prendre pour eux, au pied de la lettre, les concepts hegelo-feuerbachiens chez Marx. Pourquoi ? Parce que ce sont des concepts inadéquats. Marx ne les a utilisés que faute de mieux et en signalant d'ailleurs qu'il ne s'agissait là que d'une coquetterie. Aujourd'hui, il faut travailler sur ces concepts approximatifs et les modifier, parce que ces concepts approximatifs sont le moyen pour l'idéologie ou les idéologies de s'infiltrer dans la conception scientifique du marxisme et de paralyser le développement de la pratique scientifique marxiste. Il faut donc lire Marx, lire Le Capital, comme c'est le titre d'un de ses ouvrages, mais de façon critique, de façon symptomale. Alors qu'est-ce que ça veut dire de façon symptomale? C'est-à-dire qu'il faut faire travailler les concepts adéquats de Marx sur les concepts qui ne sont pas adéquats, et ceci pour élaborer de véritables, de nouveaux concepts qui soient, eux, véritablement adéquats. D'autre part, il faut travailler sur Le Capital, qui est la mise en œuvre de la logique de Marx, mais cette mise en œuvre n'est pas une théorie de la logique de Marx. Donc il faut travailler sur Le Capital pour dégager, à partir du Capital, une théorie de la pratique théorique de Marx, en même temps qu'il faut chercher à aiguiser les concepts inadéquats du marxisme avec ces concepts marxistes. Voilà ce que recouvre l'idée d'une lecture critique, d'une lecture symptomale du Capital. Alors, il faut voir que Althusser reprend, en la transposant dans un autre domaine, mais en la caricaturant à l'extrême, la théorie de l'indépendance absolue de la théorie par rapport au mouvement ouvrier, même si par ailleurs il fusionne, que nous avions dénoncé la dernière fois en parlant des pénétrations du positivisme dans le marxisme. Pour Althusser, la théorie est le fait d'intellectuels, de professionnels de la pratique théorique, et qui n'ont d'autres critères que ceux de la pratique scientifique à respecter. Quant au prolétariat, il a besoin de la théorie. Sans théorie, pas de pratique révolutionnaire, mais il n'est pour rien dans l'élaboration de la théorie. Nous revoilà donc dans la séparation que nous dénoncions à propos du positivisme. La théorie s'élabore indépendamment du mouvement ouvrier, par l'intermédiaire d'intellectuels, en fonction de critères qui se prétendent purement scientifiques. D'autre part, cette théorie a un rôle directif, et nous sommes bien loin de ce qu'on envisageait comme rapport entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire que la théorie serait un moment spécifique de la lutte des classes réelles, ce qui permettrait de satisfaire au principe de la dialectique, de l'unité dialectique, c'est-à-dire unité entre la théorie et la pratique, mais unité qui comporterait une distinction, puisque c'est un moment spécifique de la lutte des classes. On est surtout très loin de la citation que j'avais faite du manifeste communiste, et qui disait « Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées ou des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde, elles ne sont que l'expression générale d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sous nos yeux. » Alors ce courant scientiste, il faut noter aussi que c'est un courant orthodoxe au sens kautskiste du terme. Vous savez qu'on opposait Kautsky aux révisionnistes, disant que Kautsky c'était l'orthodoxie par rapport au révisionniste Bernstein. Dans le mot orthodoxe, il y a là une critique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'orthodoxie c'est le marxisme mort, par opposition au marxisme vivant, n'est-ce pas? Althusser voulait lutter contre l'empirisme et le pragmatisme du PCF, qui cachait mal un opportunisme politique, un glissement droitier après le 20e congrès. C'est-à-dire que pour Althusser, après ce qu'il appelait la nuit dogmatique, c'est-à-dire le stalinisme, il fallait retourner à la pratique scientifique de Marx, et à cet égard, les amendements humanistes, empiriques et pragmatiques du 20e congrès étaient les signes d'un glissement social-démocrate et ne représentaient nullement une critique scientifique du dogmatisme, comme l'indique d'ailleurs la formule critique du culte de la personne, concept totalement introuvable dans la théorie marxiste, concept qui n'a aucun statut théorique. Alors, contre les risques du révisionnisme, il faut effectuer un retour à Marx, et ceci par les soins de la théorie. Voilà la théorie d'Althusser. Le scientisme althusserien se veut la critique orthodoxe d'un néo-révisionnisme. Mais cette critique, elle est orthodoxe au sens péjoratif du terme, dans la mesure où précisément elle s'effectue par un repliement de Marx sur lui-même, lire le Capital de façon symptomale, sans chercher à partir du Capital pour analyser le capitalisme aujourd'hui, sans chercher à partir du Capital pour chercher à analyser ce qui constitue l'objet même de la théorie marxiste, c'est-à-dire la lutte des classes existantes, le mouvement historique qui se déroule sous nos yeux. Il est vrai qu'Althusser, à son époque, enfin l'époque où il écrivait tout ça, avait beaucoup d'excuses, parce qu'on peut dire que la période qui va de 1960 à 1967 était guère riche en développement de la lutte des classes. C'est une période du capitalisme triomphant en Occident, où la classe ouvrière est relativement matrie. Deuxième aspect du structuralo-marxisme, après cet aspect scientiste, c'est le rejet total de la dialectique hegelienne. Alors sur ce point, je serai bref, puisque je l'ai largement traité dans mon exposé sur Marx et Hegel. Faire simplement un petit rappel. Althusser, comme Godelier, considère que le Marx mûr, celui d'après 1845, d'après l'idéologie allemande, n'a plus strictement rien à voir avec le jeune Marx hegelo-feuerbachien. Il considère, par exemple, que la métaphore du renversement de la dialectique hegelienne par Marx, de sa remise sur ses pieds, de la métaphore du noyau rationnel de la dialectique hegelienne qu'il faudrait extirper de sa gangue mystique idéaliste, que tout ceci n'est que métaphore et en réalité une métaphore trompeuse. Le renversement dont il est question pour Althusser, c'est un véritable bouleversement, et un bouleversement tel qu'entre la dialectique hegelo-feuerbachienne et la dialectique marxiste, il n'y a plus strictement rien de commun. En particulier, il faut éliminer radicalement les catégories de négation, d'aliénation, de négation de la négation et de dépassement qui ne sont plus employées par le Marx de la maturité ou alors seulement à titre de façon de parler tout à fait inadéquate, pure coquetterie. En se servant du structuralisme, Godelier et Althusser ont tenté de dégager une autre dialectique à l'œuvre chez Marx, dialectique qui se caractérise par son anti-humanisme et son anti-historicisme, et à partir de là, ils ont tenté d'élaborer de nouveaux concepts. Alors on va essayer de parler de l'anti-historicisme théorique du structuralo-marxisme, c'est là l'aspect que je développerai le plus. Alors il faut d'abord commencer par montrer quelle est la théorie de la totalité du tout social chez les structuralo-marxistes, puis montrer, dans un deuxième temps, comment ils posent le problème de l'histoire. Pour eux, la totalité marxiste est tout à fait différente de la totalité hegelienne. C'est déjà fini ? Ah bon ? Elle est tout à fait différente de la totalité hegelienne. La totalité chez Hegel comporte différentes sphères, par exemple la société civile, la société politique, etc. Mais cette totalité est telle que chaque niveau de la société ne fait qu'exprimer un processus simple, la scission, aliénation d'un principe simple et originaire qui est l'idée avec un grand I. Et c'est pour ça que la dialectique hegelienne est indissociable de son idéalisme foncier et qu'on ne peut pas renverser l'idéalisme hegelien en conservant la méthode dialectique hegelienne, parce qu'en enlevant l'idéalisme, on bouleverse complètement le système, on aboutit nécessairement à une totalité différente. Althusser considère que chez Marx, la totalité d'une formation sociale est au contraire complexe et non pas simple. La totalité structure, articule différents niveaux ou instances qui sont strictement irréductibles entre eux, qui obéissent à une logique propre, à une structure propre, et qui se développent selon une temporalité autonome. ces différents niveaux, ce sont le politique, l'idéologique et l'économique. Alors ce qu'Althusser reprend ici du structuralisme, c'est le principe de l'irréductibilité des structures par rapport, les unes par rapport aux autres, chacune obéissant à des lois purement internes. Mais, à la différence du structuralisme, Althusser et Godelier tentent d'élaborer une théorie de la hiérarchie entre ces différentes structures, hiérarchie qui permet de dégager une structure générale du tout, c'est-à-dire une structure qui englobe ces différents niveaux, ces différentes structures. C'est-à-dire, il essaye de développer une théorie structurale des modes de production. Pour lui, le tout, le mode de production au sens large, articule, combine plusieurs niveaux qui sont relativement autonomes, mais au sein desquels le niveau économique est toujours déterminant en dernière instance. Alors là-dessus, justement, c'est ça qui est important à comprendre et qui est assez difficile à saisir, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qui est déterminant en dernière instance et ce qui est dominant. La forme de la structure économique dans le tout social permet de déterminer l'instance ou le niveau dominant du tout, mais ça ne signifie pas que c'est l'économique qui va être précisément ce niveau ou cette instance dominante. Ainsi, par exemple, la structure économique dans les sociétés primitives explique que ce sont les rapports de parenté qui sont dominants sur tous les terrains. Ainsi, pour prendre un autre exemple, par exemple celui de la corvée au Moyen-Âge, la structure économique, la forme de la structure économique, permet de comprendre que ce sont les rapports politico-idéologiques qui vont être dominants dans la société. En effet, dans la corvée, le paysan dispose pour lui-même, il reçoit en possession, une parcelle de terrain qu'il peut exploiter à sa guise pour ses besoins personnels. L'exploitation résulte de la corvée, c'est-à-dire de l'obligation qui lui est faite de travailler à d'autres heures, sur d'autres terres qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent au Seigneur, et de travailler gratuitement pour le Seigneur. Du fait que le paysan peut vivre de sa propre parcelle, de l'exploitation de sa parcelle propre, qu'il a en possession, on ne peut expliquer le travail gratuit que par l'intermédiaire, par l'intervention de rapports de force politico-idéologiques entre le seigneur et le paysan. Autrement dit, la structure économique est déterminante dans la mesure où elle explique que ce sont ces rapports politico-idéologiques qui sont dominants. Il ne faut pas confondre par conséquent instance dominante et instance déterminante en dernière instance. Il n'y a que dans la société capitaliste où l'économique est à la fois déterminant en dernière instance et dominant, parce que ce qui explique que le travailleur se fait exploiter en vendant sa force de travail, ce n'est pas un rapport politique, c'est directement un rapport économique. C'est parce qu'il ne dispose de rien d'autre pour vivre et qu'il est obligé de vendre sa force de travail pour recevoir un équivalent en monnaie qui lui permette d'acheter de quoi reproduire sa force de travail. Alors cette théorie a l'immense avantage de mettre l'accent sur la spécificité différentielle des différents niveaux, des différentes pratiques. Mais elle a un inconvénient considérable, c'est de problématiser à l'extrême l'unité du tout, l'unité d'une formation sociale. Car les sphères dont il parle, les instances, les niveaux, ne sont pas seulement décalés les uns par rapport aux autres, ils ne sont pas seulement relativement autonomes, comme disait Engels, ils sont irréductibles les uns par rapport aux autres, ils ne sont pas unis, même s'ils sont en même temps distincts, ils sont articulés au sein du tout, ce qui est une logique déjà différente. Mais jusqu'à présent, on pourrait dire quand même, malgré tout, que substituer la coquetterie structuraliste à la coquetterie hegelienne, pourrait apparaître comme un phénomène plutôt positif, dans la mesure où ça permet de mettre l'accent sur l'autonomie relative des superstructures, par exemple. Là où on peut se demander comment les marxistes vont faire pour intégrer le structuralisme, c'est quand on songe au principe du structuralisme, comme quoi le point de vue de la synchronie et de la diachronie, des lois d'équilibre et des lois de développement, doivent être séparés et qu'il faut attribuer la priorité à l'étude de la synchronie. Bon, ça va plus loin, parce que la théorie structuraliste est fondée sur l'existence d'un système invariant, auto-réglé, dont les limites sont internes et infranchissables, par conséquent, par ses propres transformations. C'est-à-dire que le dynamisme interne d'un système n'aboutit jamais, enfin n'explique jamais sa disparition. Et alors là, on se demande comment il peut y avoir une compatibilité entre cette idée et la dialectique qui suppose une contradiction interne motrice qui permet de rendre compte à la fois, dans le même temps, des développements positifs du système, les transformations dont parlent les structuralistes, mais en même temps de la négation fatale du système, c'est-à-dire de son aspect éphémère et transitoire. La dialectique, c'est ce qui permet, grâce au jeu de la contradiction interne motrice, de rendre compte à la fois, dans le même moment, des aspects positifs du développement et de ses aspects négatifs, c'est-à-dire du fait et de sa négation fatale. Là, on a l'impression qu'on se trouve face à quelque chose qui est tout à fait étranger au structuralisme, mais on voit mal comment on peut intégrer des leçons du structuralisme. Alors, il faut noter que sur ce point, l'anti-historicisme des structuralo-marxistes, malgré tout, comporte un certain nombre d'enseignements positifs. Qu'est-ce que nous reprochions à l'avant-dernière séance au positivisme marxiste que nous avions radicalement critiqué? Nous lui reprochions son évolutionnisme, c'est-à-dire de compromettre le marxisme dans une philosophie de l'histoire où le simple inférieur doit expliquer le complexe supérieur par une série de filiations continues. Et nous avions expliqué que ceci risquait de faire disparaître le changement réel, parce que dans ces conditions, le passé n'est que l'anticipation ou le germe du présent. Par conséquent, le changement est un développement continu et purement formel, et on risque de se retrouver face à cette conclusion: il y a eu et il y aura toujours des inégalités, simplement elles changent de forme. Il y a eu et il y aura toujours un état, simplement il change de forme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, je ne reviens pas là-dessus, parce qu'on en avait parlé longuement dans positivisme et marxisme. Les structuralo-marxistes, à la différence des positivistes, reprennent au contraire à leur compte cette boutade de Marx sur laquelle j'avais glosé quelque peu: l'anatomie de l'homme est la clé de l'anatomie du singe, c'est-à-dire un raisonnement strictement opposé à l'évolutionnisme du positivisme. Autrement dit, chez Althusser et Godelier, le changement réel leur paraît être la promesse du structuralisme, dans la mesure où le structuralisme débouche sur l'idée d'une discontinuité radicale qui existe entre une structure et celle qui lui succède. Il n'y a pas de filiation entre un mode de production et celui qui lui succède. Il y a un bouleversement radical, une coupure totale. Deux modes de reproduction sont irréductibles l'un par rapport à l'autre. Et Althusser voyait dans cette idée le moyen théorique d'opposer réformisme et révolution, socialisme et démocratisation du capitalisme. Il faisait observer d'ailleurs que le capital ne commence pas par une théorie de la genèse du capitalisme, mais par l'analyse de la marchandise bourgeoise, où Marx découvre dans la plus-value capitaliste la structure cachée qui rend compte de ces formes développées de manifestation qui sont le salaire, le profit, la rente et l'intérêt. L'histoire, dans cette partie du capital, au début du capital, ne vient que pour souligner la spécificité, l'irréductibilité du mode de production capitaliste par rapport au mode de production antérieur, asiatique, antique, féodaux, etc. Mais il risque d'y avoir une sérieuse contrepartie qui menace, qui menace la coquetterie structuraliste des althusseriens. En effet, le structuralisme est axé sur le principe de l'invariance du système et par conséquent sur le caractère cohérent et non contradictoire du tout. Autrement dit, s'il peut rendre compte du développement positif du système, de ses transformations internes, il exclut radicalement la question du changement du système, du passage du système à un autre, de la négation du système. Alors il est bon de lutter contre l'évolutionnisme positiviste qui met en cause la réalité du changement, mais est-ce qu'on ne tombe pas de caribe dans Scylla en allant chercher un modèle qui exclut la contradiction interne et finalement expulse le problème du changement réel hors de son champ d'investigation? Toute l'œuvre des althusseriens consiste à montrer que les contradictions économiques du capitalisme ne conduisent pas à la négation du capitalisme, c'est-à-dire à la mort du capitalisme. Autrement dit, la contradiction interne simple du mode de production capitaliste entre appropriation privée des moyens de production et développement des forces productives ou socialisation des forces productives, cette contradiction interne n'est pas motrice de l'histoire. Les lois tendancielles du capitalisme, socialisation des forces productives, concentration, extension du marché, prolétarisation, paupérisation, baisse tendancielle du taux de profit, etc., ne conduisent pas au passage au socialisme, à la solution de la contradiction interne du capitalisme entre appropriation privée des moyens de production et socialisation et développement des forces productives. Ces lois tendancielles dont on vient de parler constituent bien un développement de la contradiction, mais il s'agit de la dynamique interne du système, c'est-à-dire de la dimension dynamique de la synchronie, d'un système de transformation, et non d'une théorie de la diachronie, c'est-à-dire d'une théorie du passage nécessaire du capitalisme à un autre mode de production. Pour lui, ces tendances, ces lois tendancielles, ne sont que les effets dans le temps de la structure invariante et non pas le moteur du dépassement de la structure. En effet, ces lois tendancielles ne conduisent qu'à une seule chose, aux crises cycliques, qui ne sont pas la mort du capitalisme, mais la façon spécifique du capitalisme, que le capitalisme a de se reproduire, de reproduire son équilibre. Le capitalisme, c'est un moteur à explosion qui maintient son équilibre à coup de crises cycliques. Ces crises indiquent bien les limites du capitalisme, mais ces limites ne sont jamais atteintes par le jeu interne des lois tendancielles. Ces limites ne font finalement rentre dans la théorie des lois d'équilibre, de l'autoréglage du système capitaliste. Et les althusseriens finissent par poser cette question: la contradiction dont on parle entre appropriation privée des moyens de production et socialisation du développement des forces productives, eh bien, cette contradiction, est-ce bien une contradiction? Ne vaudrait-il pas mieux parler de structure du capitalisme, structure déterminée et limitée par chacun des deux termes de la combinaison qu'elle articule, c'est-à-dire d'un côté appropriation privée des moyens de production et de l'autre socialisation des forces productives. Combinaison donc limitée, déterminée par les termes de la combinaison, mais combinaison qui n'est nullement contradictoire. Althusser note que la contradiction n'existe finalement que dans les effets de la structure et non dans les causes. Par exemple, il y a à la fois baisse tendancielle du taux de profit et accroissement de la masse de la plus-value. Autrement dit, la même cause favorise à la fois la baisse du taux de profit et l'accumulation, c'est-à-dire la constitution d'un capital additionnel qui met en œuvre du capital variable et par conséquent vient contredire la première tendance, c'est-à-dire baisse tendancielle du taux de profit. La contradiction étant les effets de la cause, elle n'est pas dans la cause cachée, elle n'est que dérivée, et ceci explique que la contradiction n'atteint jamais ses limites, n'explose jamais, et que son résultat est un équilibre atteint par l'intermédiaire de crise. En effet, les crises ne manifestent seulement que les limites intérieures de la complexité de la combinaison déterminée qui est la cause, combinaison de la propriété privée et du développement des forces productives pour la grande industrie. Cette combinaison est complexe et limitée, mais elle n'est pas contradictoire. Pour les althusseriens, la contradiction n'arrive et ne devient antagonique et explosive que parce qu'elle est surdéterminée. La structure économique ne deviendra explosive pour le tout que parce qu'il existe d'autres contradictions dans les sphères politiques et idéologiques et que ces contradictions peuvent à un certain moment fusionner en une unité de rupture. Il faut dire d'ailleurs que Althusser est très discret sur cette théorie. Ainsi, la lutte des classes, par exemple, pourra faire éclater la structure invariante du tout, mais pour lui, la lutte politique de classe ne fait pas partie de l'étude de la structure de la production. Le développement de la structure économique ne fait finalement que créer un certain nombre de conditions objectives, concentration et prolétarisation, au développement de la lutte des classes. Et la solution de la contradiction économique viendra d'ailleurs d'un autre niveau, du niveau politique, dont il convient de faire la théorie de ce que n'a pas fait Marx, n'est-ce pas, de faire la théorie de sa structure propre. Alors ceci nous ramène au premier problème, c'est-à-dire le problème de la totalité. C'est exclure la lutte des classes du champ de l'économique et problématiser à l'extrême les rapports d'unité-distinction, c'est-à-dire les rapports dialectiques entre superstructure et infrastructure, l'unité organique entre économie et sociologie, qui se situe précisément dans les classes sociales et leur double signification de facteurs ou conditions objectives du procès de production et d'agents politiques de tout le procès social humain. Autrement dit, il y a chez Althusser un petit peu l'erreur inverse, symétriquement inverse, de ce que nous avions dénoncé dans l'économisme de la Deuxième Internationale. Alors, comme on pouvait s'y attendre, la coquetterie structuraliste met surtout l'accent sur ce qui fait qu'une société fonctionne, c'est-à-dire la façon dont une société se reproduit. Autrement dit, l'accent est toujours mis sur la cohérence du tout et jamais, finalement, sur la contradiction. D'autre part, il y a un certain nombre de conclusions assez effrayantes qui découlent d'un certain nombre de passages d'Althusser et qui finalement débouchent là aussi sur la remise en cause de l'idée de changement réel. Il y a plusieurs passages où Althusser essaye de faire une théorie structurale de tous les modes de production. Donc chaque mode de production réaliserait une combinaison particulière des différentes instances et des différents éléments qui composent ces instances. Mais finalement, ces instances et ces différents éléments sont toujours les mêmes. Et on pourrait imaginer une théorie générale de tous les modes de production. Or, c'est particulièrement redoutable Parce qu'on en aboutit notamment à cette idée, qu'il a développée longuement, comme quoi toute société, y compris communiste, comporterait un niveau idéologique obligatoire. Un niveau idéologique différent de la science. Alors il dit simplement, dans une société sans classe, ben, ce sera une idéologie, mais pas une idéologie dominante de classe. Voilà. Alors, si on applique le même système à la politique, heureusement pour lui, il s'en est gardé, il n'a pas développé cet aspect, mais il n'y a aucune raison de ne pas lui appliquer le même système. Mais ça veut dire que dans toute société, il y a un niveau politique et par conséquent un État, et que dans la société communiste, il y a un État sans classe. Ce qui est évidemment totalement contradictoire avec les théories marxistes de dépérissement de l'État. Alors les althusseriens prétendent aussi qu'il n'y a pas, dans le capital, une véritable théorie de la genèse du capitalisme. Pour eux, les passages du capital qui portent sur l'accumulation primitive, c'est-à-dire sur la genèse du capital, mais dans ces passages, Marx ne ferait pas une théorie de la genèse, mais une simple généalogie des différents éléments constitutifs du capitalisme, généalogie élément par élément, purement empirique finalement, et qui n'explique en rien comment le capitalisme s'est structuré en tant que tout, en tant que structure, et qui présuppose au départ la connaissance du système capitaliste en tant que tel. D'autre part, les althusseriens prétendent qu'il n'y a pas chez Marx une théorie du passage d'un mode de production à un autre. Et que c'est l'œuvre, c'est la chose à faire pour les théoriciens marxistes aujourd'hui. Et ils envisagent une solution dans cette idée qu'une formation économique et sociale combine toujours, non pas un seul mode de production, mais plusieurs modes de production dont l'un est dominant. La complexité de la combinaison expliquerait la non-correspondance qui peut exister entre superstructure et infrastructure, entre développement des forces productives et rapports de production dans les sociétés de transition. Non-correspondance qui serait ramenée, pour la comprendre, au procès de domination de la combinaison par l'un des modes de production. Mais là aussi, il ne fait qu'indiquer des lignes de force, et puis il reste un problème. La théorie du passage suppose, par conséquent, deux modes de production au moins qui se combinent, mais comment diable surgit ce deuxième mode de production qui vient se combiner avec le premier? Ça, c'est quelque chose que les althusseriens n'expliquent pas et ne cherchent pas à expliquer. Alors, quant à Maurice Godelier, il a développé une théorie un peu comparable, mais beaucoup plus économiste. Pour lui, il faut distinguer chez Marx deux types de contradictions. Il y a une contradiction interne et originaire au rapport de production qui se caractérise par la contradiction capital-travail. Il y a d'autre part une contradiction non originaire, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas au début, une contradiction non originaire et externe entre deux structures qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre, et qui sont le développement des forces productives d'une part et les rapports de production d'autre part. Alors il explique que ces deux structures parviendraient à un certain moment de leur développement interne propre à franchir un seuil limite d'incompatibilité entre elles. Et il se fonde, pour justifier sa théorie, sur cette citation de Marx, à un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production. De forme de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports deviennent des entraves, alors s'ouvre une période de révolution sociale. Autrement dit, il faudrait replacer la logique de la contradiction, enfin remplacer plus exactement la logique de la contradiction hegelienne par celle de limite, de seuil d'invariance d'une structure, ou plus exactement de compatibilité entre deux structures qui coexistent mais qui sont extérieures l'une par rapport à l'autre. Et pour justifier sa théorie, il emploie une boutade qui ne manque pas d'intérêt ni de saveur, on vous la lit. En matière de plaisanterie, on pourrait dire que si une glaciation a fait disparaître le dinosaure de la surface du globe, cette espèce n'a pas péri du développement spontané de ses contradictions internes, mais d'une contradiction entre sa structure physiologique interne et la structure de ses conditions extérieures d'existence. Et il est vrai que le raisonnement ne manque pas de valeur. Alors cette logique structuraliste conduit là aussi à problématiser considérablement le rôle moteur de la lutte de classe et l'autodynamisme de la contradiction interne qui conduirait le mode de production à sa solution. Alors il est bien vrai, comme le disait Marx, que la conclusion de toute cette merde, c'est-à-dire du capital, l'aboutissement du système, c'est la lutte de classe. Il est bien vrai que cette lutte de classe suppose un certain nombre de conditions objectives du côté des forces productives. Mais ces conditions ne sont pas externes. Elles modifient non pas seulement du dehors, mais aussi du dedans les rapports de production. Par exemple, elles permettent l'association, l'union révolutionnaire des travailleurs. La production n'est pas seulement matérielle, elle est en même temps la production de classes sociales et de leur lutte. Les machines sont à la fois une chose et un rapport social. Et la bourgeoisie produit en même temps que des richesses, que des marchandises, les prolétaires, c'est-à-dire ses propres fossoyeurs, comme le dit le manifeste. Autrement dit, la contradiction est réellement originaire. Simplement, il ne s'agit plus, comme le pense Godelier, de limites ou de seuils d'incompatibilité entre développement des forces productives et rapports de production. Les rapports de production capitalistes, simplement, impriment au développement des forces productives un caractère contradictoire qui favorise et en même temps entrave leur développement. Et c'est ce que Godelier ne peut comprendre en brisant l'unité dialectique du mode de production entre développement des forces productives et rapport de production. Si le marxisme n'est pas un historicisme, il ne sépare jamais structure et processus, qu'au contraire, il l'identifie. Et c'est en cela que la structuralisation du marxisme est impossible. Pour la dialectique, la structure, derrière sa stabilité relative, n'est que la configuration transitoire du processus. Elle comporte au-dedans d'elle-même une contradiction motrice interne, la nécessité de sa propre transformation. Rappelons cette citation de la postface de la deuxième édition du livre 1 du Capital que j'avais cité la dernière fois. La dialectique permet de saisir, dans la conception positive des choses existantes, l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire. La dialectique est donc essentiellement critique et révolutionnaire. En cela, le marxisme n'est pas un structuralisme. Il ne s'enferme jamais avec des catégories fixes, limites externes, invariances, etc. Et il ne débouche pas, comme le structuralisme, sur une série discontinue